Gloire au Seigneur. Juste avant de lire ensemble un passage dans l'Évangile, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a parmi vous peut-être certaines personnes qui ont des responsabilités par leur métier, des responsabilités et peut-être une profession de directeur, je ne sais pas, ou peut-être vous avez sous votre service peut-être des personnes sous votre responsabilité, je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a aussi parmi vous des parents. Et les parents, c'est vrai, les parents, ils ont une autorité sur leurs enfants. Normalement, lorsque les parents disent des trucs aux enfants, ben normalement, ils sont censés le faire. Des fois, ils n'écoutent pas, des fois, ils écoutent. Mais les parents ont une certaine autorité. Et de la même manière qu'un directeur, il a une autorité sur ses employés. Il y a dans la Bible un homme, un officier romain, et il nous est dit que cet homme, eh bien, il avait une certaine responsabilité. Cet homme avait une autorité. C'est-à-dire qu'il avait ses hommes sous son ordre. Lorsqu'il disait quelque chose, eh bien, ses hommes s'exécutaient. Et de la même manière, cet homme était persuadé. Il était sûr que Dieu avait toute autorité sur terre. Est-ce que vous croyez que Dieu a toute autorité sur terre? Lorsque Dieu il dit un mot, lorsque Dieu dit un seul mot, eh bien, la chose s'accomplit. Est-ce que vous le croyez? Lorsque nous prions pas un Dieu, une statue, nous ne prions pas un tableau, mais nous prions un Dieu vivant, un Dieu qui nous écoute. Et lorsque nous le prions, eh bien, un seul mot de sa part et la chose existe. On va lire ensemble dans Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Et donc, c'est l'histoire de cet officier romain qui va aborder Jésus parce qu'il avait une requête à faire auprès de Jésus. Matthieu 8, 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mon ordre, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. » Quand Jésus, eh bien, il arriva dans cette ville de Capernaum, il y a ce centenier romain qui est venu l'aborder. Le centenier romain, comme je disais tout à l'heure, c'était un officier qui avait une responsabilité, donc il avait une centaine d'hommes sous ses ordres. Et cet homme, eh bien, il nous est dit qu'il avait un de ses serviteurs qui souffrait beaucoup. Cet homme, eh bien, il a vu son serviteur qui était souffrant. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce passage. En le lisant, je me suis rendu compte que, en fait, cet homme, il avait une centaine de personnes sous ses ordres. Et pourtant, il y en avait un qui était malade, il s'est soucié de lui. Il y en avait un seul parmi les 100 qui était malade, il s'est soucié de lui. Il aurait pu lui dire, parce qu'il avait tellement de choses à faire, j'imagine, avec la responsabilité qu'il avait, il aurait pu lui dire, bien, écoute, t'es fatigué, va te reposer, prends un Doliprane, ça ira mieux demain. Mais non, il s'est soucié de lui. Il s'est soucié de lui, il est allé chercher Jésus pour lui dire, mais mon serviteur est malade, viens guérir mon serviteur. Et je me dis, il y a un exemple là en tirer. C'est vrai, cet homme, il a eu de la compassion. Il a eu de la compassion pour cette serviteur, à l'image de Jésus lorsqu'il donne cette parabole. Lorsqu'un berger, eh bien, il a 100 brebis, il est prêt à aller chercher de laisser les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Jésus est prêt à aller chercher celui qui est malade. Jésus est prêt à aller chercher celui qui est perdu. De la même manière, je crois que nous devrions aussi être compatissants envers ceux qui sont souffrants autour de nous. Nous devrions être comme ce centenier, comme Jésus, être compatissants envers ceux qui sont souffrants autour de nous. C'est vrai, on peut avoir tellement de difficultés dans nos vies, on peut être parfois dans notre bulle aussi. Ah Seigneur, je me plains de mes problèmes, je me plains de ma solitude, je me plains, mais autour de nous, il y a tellement de gens qui sont dans la souffrance, que nous puissions avoir aussi cette compassion envers ceux qui nous entourent, envers nos frères et sœurs dans l'Église aussi. La Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ. Et 1 Corinthiens 12, 26, la parole de Dieu nous dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, eh bien, tous les membres se réjouissent avec lui. Que nous puissions nous encourager les uns les autres, que nous puissions exhorter celui qui est souffrant, que nous puissions encourager. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes là aujourd'hui en réunion de prière, que nous puissions prier aussi les uns pour les autres. Nous avons, c'est vrai, des requêtes à déposer auprès de Dieu, mais peut-être à côté de toi, il y a ton voisin, tu ne sais pas ce qu'il vit actuellement, peut-être qu'il vit dans de terribles souffrances. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il a le sourire, mais au fond de lui, il y a une souffrance. Que nous puissions compatir envers ceux qui sont autour de nous et prier, encourager les uns et les autres, persévérons dans la prière. Et Jésus, lorsqu'il a vu cet homme, il lui a dit, eh bien, j'irai, je le guérirai, j'irai. Jésus lui a fait cette promesse. Il lui a dit, oui, je vois ta démarche, je vois que tu es venu à moi, eh bien, je vais te suivre, je vais aller le guérir. Je vais aller le guérir. Jésus honora sa démarche. Et de la même manière, je crois que lorsque Dieu fait une promesse, eh bien, Dieu l'accomplit. Jésus a dit à cet homme, j'irai et je le guérirai. Il n'a pas dit, bon, attends-moi un peu, on verra, si j'ai le temps, j'irai te voir et on va voir si je vais le guérir. Non, il a dit, j'irai et je le guérirai. Et ce soir, eh bien, si nous sommes là pour passer du temps dans la prière, si Dieu fait des promesses, eh bien, Dieu accomplit ses promesses. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, Nombre 23, 19. Ni un fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ? De la même manière que Jésus a dit à cet homme, j'irai, je le guérirai, croyons que ce que Dieu dit aujourd'hui, il accomplira. Si Dieu t'a fait une promesse dans ta vie, crois et saisis-la qu'il va l'accomplir. S'il y a quelque chose que tu attends dans ta vie depuis longtemps, persévère dans la foi, persévère dans la prière. Lorsque Dieu parle, eh bien, la chose s'accomplit. Et cet homme, lorsque Jésus lui a dit « j'irai et je le guérirai », cet homme, il ne se sentait pas digne de le recevoir. Il a dit « mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Mais finalement, après tout, il n'y a même pas besoin que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Ce centenier romain, eh bien, il était persuadé qu'un seul mot de Dieu suffirait à guérir son serviteur. Est-ce que nous le croyons ce soir ? Un seul mot de Dieu peut suffire pour nous sortir de notre souffrance. Un seul mot de Dieu peut suffire à briser les montagnes qu'il y a devant toi. Un seul mot de Dieu peut suffire de te sortir de cette maladie, de te sortir de cette dépression. Un seul mot de Dieu. Il suffit de croire comme ce centenier et de déclarer, de dire oui. Seigneur, je veux croire qu'un seul mot suffit. Dis seulement un seul mot. Cet officier, il reconnaissait là par là la pleine autorité de Dieu. Oui, parce que Dieu est tout-puissant. Dieu a cette pleine autorité sur terre et dans les cieux. Il suffit de voir combien la terre est merveilleuse. Il suffit de voir toute la création. Dieu est le créateur de l'univers. Et Dieu a toute autorité. Durant son ministère terrestre, Jésus a démontré son autorité par la proclamation de sa parole, par finalement les prophéties qu'il a annoncées, qui se sont après réalisées. Il a chassé des démons, il a pardonné des péchés, il a même ordonné à la nature. Et les gens autour de lui étaient stupéfaits, ils se sont dit « mais waouh, mais qui est cet homme qui est capable que même la nature l'obéit ?» Lorsqu'il y a la vague, lorsqu'il y a la tempête, un seul mot. Et Jésus est capable d'apaiser les vagues. Jésus est capable d'apaiser les tempêtes qu'il y a dans ta vie aujourd'hui. Un seul mot. Il suffit de croire. Il suffit de croire et de le saisir. Il suffit d'être comme ce centenier, de prier, de persévérer. Il dit, mais Seigneur, dis un seul mot. Et je crois que la chose est capable de se réaliser. Le psaume 33,9. Le psalmiste avait bien compris. Et il disait, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. De la même manière que Dieu, en un seul mot, il a créé l'univers, de la même manière, en un seul mot, il peut accomplir des miracles extraordinaires. Il nous suffit de le croire par la foi. Et cet homme était venu dans cette démarche de foi, et Jésus était étonné. Jésus était étonné finalement, et il dira, mais je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même parmi le peuple élu, même parmi le peuple d'Israël, Jésus disait, mais je n'ai même pas vu une aussi grande foi. Alors qu'eux, ils ont été enseignés dans toute la culture, dans toutes les traditions, ils ont été enseignés par les Écritures. Et parmi tous ces hommes-là, ils disaient, je n'ai pas vu ainsi une aussi grande foi. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est avoir cette pleine conviction que ce que Dieu promet, eh bien, il peut aussi l'accomplir. La foi, c'est avoir une confiance en la fidélité de Dieu. Lorsque Dieu déclare quelque chose, lorsque Dieu fait une promesse, que nous puissions le croire, qu'elle va se réaliser. Vous connaissez Abraham ? Abraham, eh bien, il était avec son épouse, Sarah, et puis ils ont attendu longtemps pour avoir un enfant. Alors que Sarah, elle était stérile, il ne pouvait pas avoir d'enfant, Dieu lui a fait une promesse. Il lui a dit, tu seras le père d'une grande nation, tu auras un fils du nom d'Isaac. Et la promesse tardait. Il commençait à prendre de l'âge et puis il ne comprenait pas. Il se dit, mais après tout, comment Dieu peut faire ? Comment Dieu peut faire ? Romains 4, 20, 21, Paul nous dit au sujet d'Abraham, Abraham ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà ce qu'est la foi. C'est avoir cette pleine conviction que Dieu, lorsqu'il fait une promesse, il peut aussi l'accomplir. Hébreux 11 nous fait cette définition de, vous connaissez ce verset, Hébreux 11, verset 1, qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Mais j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'il y a une petite chose qui est importante, c'est que lorsqu'il dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, on peut avoir beaucoup d'assurance sur des choses que l'on espère, sur des choses que l'on envie, mais qui n'ont pas été promises par Dieu. Il y a des choses qu'on peut espérer, mais qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Mais la foi, ce n'est pas avoir une auto-persuasion, une auto-suggestion de ce qu'on a envie de faire. On s'appuie parce que, ah oui, j'ai tellement envie de gagner au loto, j'ai cette persuasion, ça c'est la foi. Moi, je suis sûr que je vais avoir les bons numéros. Mais non, la foi, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu. La foi, c'est s'appuyer sur les promesses de Dieu. La foi, c'est s'appuyer sur ce que Dieu dit, sur sa parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. La foi est véritable. La foi ne s'appuie pas sur des auto-suggestions, des auto-persuasions. Mais la foi s'appuie sur la parole de Dieu. Que nous puissions lire la parole de Dieu et que nous puissions nous appuyer sur ses promesses qui sont sûres et véritables. Et Jésus, lorsqu'il fut étonné de voir cet homme avec une aussi grande foi, même parmi le peuple d'Israël, il disait, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et il dira cette phrase à tous ceux qui l'entouraient. Parmi eux, il y avait des juifs, il y avait des non-juifs. Il dira cette phrase, il dira, or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus fit cette révélation que le salut n'était pas seulement pour les Juifs. Le salut n'était pas seulement pour le peuple de Dieu, mais il était aussi pour tous, pour toutes celles et ceux qui auront placé leur foi en Dieu. Pour toutes celles et ceux qui auront placé leur foi en Jésus-Christ, eh bien, ils seront assis à la même table qu'Abraham, Isaac et Jacob. Et cette centenier qui avait cette foi, Jésus lui montre à toute cette foule, même les juifs, mais être juif ne vous sauvera pas, c'est la foi qui vous sauvera. Jésus dit que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Vous savez qui sont les fils du royaume ? Eh bien, les fils du royaume, ce sont les juifs de naissance. Ce sont ceux qui ont grandi dans cette culture, ceux qui ont grandi, mais qui ne se sont jamais réellement convertis. Être juif, mais ne pas donner sa vie à Dieu, ne te sauvera pas. De la même manière, grandir dans une famille chrétienne, mais ne pas donner ta vie à Dieu, ne te sauvera pas. Être chrétien, ce n'est pas une étiquette que Dieu nous fait. Être chrétien, ce n'est pas parce que nous naissons dans une famille chrétienne. Mais la foi se vit personnellement. La foi est quelque chose de personnel. La Bible dit dans Romains 10, 12, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif, le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et ceux qui l'invoquent, eh bien, ils deviennent riches. Ceux qui l'invoquent, c'est ceux qui s'approchent de Jésus par la foi. Ceux qui sont riches, c'est ceux qui s'approchent de Jésus et qui reconnaissent que oui, nous avons besoin de lui. Je ne sais pas dans quel état vous êtes venu ce soir, si c'est même peut-être la première fois que vous entendez parler de Dieu, si c'est la première fois que vous venez dans une église, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Approchez-vous de Dieu par la foi. Approchez-vous de Dieu. Reconnaissez que oui, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour hériter de ses promesses, pour hériter et être riche, comme ce verset nous l'indique. Et un jour, nous serons assis aux côtés d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce qui signifie, c'est dans le paradis, dans l'éternité. C'est là ce que ça veut dire, ce verset. Et Jésus a fait cette déclaration à tous ces juifs. Oui, vous êtes juifs, mais cela ne vous sauvera pas. C'est celles et ceux qui ont la foi, comme ce centenier, qui seront sauvés. Alors Jésus lui dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Moi, tu m'as montré que tu avais la foi, tu m'as montré. Finalement, j'ai pu constater que tu avais une grande foi, alors va et que ce soit fait selon ta foi. Et effectivement, lorsqu'il est parti, ils ont pu constater que son serviteur était guéri instantanément. Lorsque Dieu dit un mot, la chose arrive instantanément, que nous puissions le croire en un seul mot, et la chose arrive, que nous puissions persévérer dans la prière. Marc 11, 22, 24, Jésus encourage ses disciples, et il va leur dire, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. » Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-la dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Que nous puissions nous souvenir de ça encore ce soir. Alors que nous allons prendre un temps dans la prière, nous puissions nous souvenir de ça, tout ce que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons déjà reçu et que nous le verrons s'accomplir. Exerçons notre foi encore. Exerçons notre foi comme ce centenier. Et que Jésus puisse dire oui, qu'il soit fait selon ta foi. Encore ce soir. Je veux juste terminer avec ce verset. Jérémie 17, 5 à 8, qui nous parle finalement de deux personnes. La première qui décide de ne pas s'appuyer sur Dieu, mais qui décide de s'appuyer sur ses propres forces. Et la deuxième personne qui décide de s'appuyer sur Dieu, de placer sa foi en Dieu, de placer sa confiance en Dieu. Jérémie 17, 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le malheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Excusez-moi, j'étais malade toute la semaine, c'est une grâce déjà que je puisse parler, hier j'avais plus de voix. Et il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur et quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Que nous puissions nous confier en Dieu encore ce soir. Que nous puissions nous appuyer sur ses promesses, nous appuyer sur Dieu. Alors que nous allons prendre un instant dans la prière, alors que nous passons du temps dans la prière pour nous adresser nos demandes, pour lui nous adresser ce dont nous avons sur le cœur, que nous puissions être comme ce centenier, avoir cette foi et dire oui Seigneur, un seul mot, et je veux croire que la chose arrivera. Seigneur, je veux placer ma confiance en toi, ce soir encore Seigneur. Seigneur, merci pour, Seigneur, ta parole. Seigneur Jésus, merci parce qu'elle nous enseigne encore que, oui, tu es celui qui récompense la foi. Tu es celui qui désire que nous puissions placer totalement notre foi en toi. Nous voulons être comme ce centenier. Nous voulons dire oui, il suffit d'un seul mot et la chose arrive. Nous voulons croire, Seigneur, que il suffit d'un seul mot de ta part et la chose arrive. Nous voulons croire qu'il suffit d'un seul mot pour anéantir les maladies. Nous voulons croire qu'il suffit d'un seul mot pour anéantir les forteresses, pour anéantir la dépression, pour anéantir toutes celles et ceux qui sont dans la misère spirituelle, Seigneur. Jésus, je veux te prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, que tu puisses nous faire du bien encore ce soir, que tu puisses relever celles et ceux qui sont peut-être fatigués ce soir, que tu puisses relever celles et ceux qui sont anéantis, abattus, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur toi encore, comme cet arbre, nous voulons être là planté près des courants d'eau, Seigneur. Et lorsqu'il y aura la tempête, lorsqu'il y aura les années de sécheresse, nous pourrons porter du fruit parce que nous serons dans ta présence, Seigneur. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ces temps, Seigneur. Et nous voulons te prier avec foi, avec persévérance, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen.